Bonsoir à tous et bienvenue sur le direct Garde Nationale. C'est le rendez-vous mensuel de la Garde Nationale, vous commencez à en avoir l'habitude. Alors il n'y en a pas eu cet été bien sûr, hein, parce qu'on a respecté la trêve estivale, donc c'est un peu notre rentrée mon général pour le direct Garde Nationale.
C'est exactement ça, donc vraiment je suis content de vous retrouver, Louis. J'espère que vous avez passé un bon été, que vous avez pu faire le plein d'énergie, parce qu'on va faire plein de webinaires cette année. Et donc, on va commencer avec nos camarades de la Marine nationale, les réservistes de la Marine nationale. Et c'est un vrai plaisir, un vrai honneur de respirer ce soir une bonne bouffée d'air iodé avec nos amis de la Marine nationale.
Alors, ben, mon général, effectivement, on va pas enfin, on a déjà trahi en fait le sujet de ce webinaire. Donc, ce sera dédié aux réservistes de la Marine nationale. On avait déjà eu l'armée de l'air, la gendarmerie. On continuera bien sûr hein, après la marine à traiter les autres composantes de la Garde nationale. Mais aussi, on a une actualité Garde nationale qui va être très forte hein, pour les réservistes avec les journées nationales des réservistes qui débutent donc le 14 octobre.
C'est exactement ça. Alors à vos calendriers, il y a un mois très important dans l'écosystème des réserves, c'est les journées nationales du réserviste qui vont se dérouler partout en France entre le 14 octobre et le 14 novembre. Les événements seront organisés dans les territoires de manière à mieux faire connaître et à valoriser l'engagement au sein de la réserve.
Donc ce sont les journées hein, nationales des réservistes sur tout un mois, 14 octobre, 14 novembre. Et puis on peut déjà donner rendez-vous donc à tous nos réservistes, à tous ceux qui suivent la communauté Garde nationale le 15 novembre, hein, parce qu'il va se passer quelque chose le 15 novembre pour on va dire la clôture de ces journées nationales des réservistes.
Alors exactement, cette année nous avons décidé de clôturer en grande pompe les journées nationales du réserviste avec les rencontres de la Garde nationale, qui vont se dérouler effectivement à la Bibliothèque nationale de France. Donc, ce sera retransmis sur les réseaux. Donc, ce sera un grand colloque sur le thème réserviste, s'engager au service du collectif. Et donc, on va parler de ce thème-là. On va le décliner sur trois tables rondes. On aura beaucoup de monde, comme on a eu l'année dernière. Et je pense que ce sera un vrai moment de mise en valeur, en fait, de reconnaissance que l'on porte à nos amis réservistes qui s'engagent pour être utiles à leur pays. Et donc, on leur doit ce coup de chapeau. Donc, le coup de chapeau aura lieu dans les territoires entre le 14 octobre et le 14 novembre. On relaiera tout ça en clôturant les journées nationales du réserviste le 15 novembre, avec ce temps fort dans le biorhythme de la Garde nationale, si je peux m'exprimer ainsi, parce que nos camarades de la réserve méritent pleinement qu'on leur porte un grand coup de chapeau.
Très bien, bah écoutez, merci mon général. Les dates sont bien notées, et puis évidemment, puisque vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on vous rappellera toutes ces dates. Place maintenant donc à la Marine nationale. Donc on a le capitaine de vaisseau Rialan qui va nous rejoindre avec deux réservistes opérationnels de la Marine nationale et qui sont là pour partager leur parcours, leur expérience. Et donc, merci vous à vous trois d'être là. Mes respects, commandant. Alors, vous savez, c'est les spécificités des grades. Donc, on a effectivement un capitaine de vaisseau de la Marine nationale qu'on appelle donc commandant.
Ouais, ben merci en tout cas pour l'accueil. Moi, je suis très heureux aussi d'avoir été invité par la Garde nationale. Ça permet de faire souffler un peu l'air du large sur Paris et puis au travers des micros. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés pour nous entendre parler ce soir. Je pense que vous êtes là probablement parce que vous avez une passion ou un intérêt pour la réserve. Et peut-être aussi une passion, un intérêt pour la marine, peut-être même les deux. Donc moi, je suis venu accompagné de lieutenant de vaisseau Mélina, qui a rejoint la réserve il y a quelques années et qui sert dans les opérations. Il est premier être Adrien, qui encadre les préparations militaires et qui a aussi une forte expérience de la réserve. À titre personnel, avant d'avoir une passion accrue pour la réserve, j'étais sous-marinier. J'ai fait 25 ans vie à bord des sous-marins avec une vingtaine de missions opérationnelles et puis avec un parcours varié au sein de la marine et j'ai découvert plus précisément la réserve au cours de mes affectations, notamment dans les forces marines avec des jeunes réservistes qui venaient nous aider dans nos missions du quotidien, surtout à terre et plus précisément depuis que j'ai pris les fonctions de délégué aux réserves de la Marine nationale depuis un an. Voilà, Mélina.
Merci grand. Lieutenant de vaisseau Mélina. Donc effectivement, comme mentionné, dans la Marine nationale, l'appellation des grades est particulière. Donc lieutenant de vaisseau équivaut à capitaine. Donc je suis Je suis effectivement réserviste au centre de planification et de conduite des opérations depuis quelques années déjà. Et au préalable, j'avais fait une préparation militaire supérieure d'état-major, la promotion Orion, donc en 2016. Voilà. Et je vous remercie pour votre invitation aujourd'hui. C'est un honneur de pouvoir témoigner pour la réserve, pour la Marine nationale, et puis aussi à titre personnel.
Alors merci. Alors attendez de voir les questions, hein, parce qu'il y a peut-être des questions pièges. Mais donc enfin, deuxième réserviste opérationnel, on a Adrien.
Bonjour à tous. Donc je suis le premier maître Adrien. Je suis affecté au commandement de la Marine à Paris. Je suis réserviste depuis 13 ans. Je suis instructeur en préparation militaire. Préparation militaire marine sont des dispositifs qui sont dispersés sur tout le territoire, qui forment des jeunes gens et que nous accompagnons à devenir des jeunes adultes et qui découvrent par là même la Marine nationale. J'ai effectué une préparation militaire supérieure en 2010, donc je suis réserviste depuis 13 ans.
Très bien. Alors, juste commandant, on va un petit peu planter le décor. Donc on parle de réservistes opérationnels de la Marine nationale. Combien sont-ils ?
Ah, ils sont environ 5000 aujourd'hui. Alors c'est considérable, hein. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut dire que la marine ne fonctionnerait pas totalement si on n'avait pas nos 5000 réservistes. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est que quand vous me demandez combien sont-ils aujourd'hui, moi je suis un peu gêné parce que parler du présent, c'est parler du passé. Comme j'ai dit, on est en pleine transformation et on a l'ambition de monter les effectifs de réserve de la marine à environ 11 500 à l'horizon de 2030.
Donc on double, en fait on double, oui, sur les 5 prochaines années, on double.
On va doubler le nombre de réservistes, on va aussi transformer la réserve, on va faire ça différemment. Alors je peux vous décrire ce que font les réservistes aujourd'hui. Hein.
Bien sûr.
Sur nos 5000 réservistes, environ les 2/3 servent dans ce qu'on appelle le domaine des opérations. Ils sont soit dans les centres qui préparent et qui conduisent les opérations, soit ils sont en contact des marins qui font les opérations, soit même certains d'entre eux servent à bord des bateaux. Lors du dernier déploiement du porte-avions l'an dernier, on avait une dizaine de réservistes, hein, dont un qui était sur le pont d'envol avec les rafales et quelques-uns qui savaient à bord, qui avaient fait l'ensemble de la mission du porte-avions. Donc 2/3 servent au contact des marins dans les opérations. Le tiers suivant sert différemment, il sert la marine, très clairement. Il est investi dans des missions qui sont des missions de rayonnement, des missions de recrutement, au profit de la marine ou des missions tournées vers la jeunesse, puis des missions d'appui, de soutien. On a des juristes, on a des ingénieurs dans le domaine du numérique qui servent dans la marine. On s'ouvre de plus en plus à des métiers modernes et variés. L'intelligence artificielle est un sujet dans lequel on souhaite s'engager avec la réserve. En fait, finalement, tout le monde civil peut apporter quelque chose à la marine, et je pense qu'un réserviste aussi peut se définir par ça. 5000 réservistes, mais en fait 5000 personnes qui ont un métier dans la marine, qui ont souvent des compétences civiles qu'ils peuvent valoriser parmi nous.
5000. Écoutez, c'est très clair. Alors, on va voir bien sûr tout au long de cette émission, hein, quelles sont les conditions pour devenir réserviste. Alors, on disait en préparation, en fait, on ne devient pas réserviste, on s'engage comme réserviste. Et donc, on expliquera comment on s'engage pour devenir réserviste. Et d'ailleurs, peut-être que c'est la première question qu'on peut poser à Mélina.
D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours souhaité m'engager. Et au fil du temps, des expériences, du contact auprès de l'environnement militaire, j'ai mûri ce projet de s'engager. Et une fois inséré dans la vie professionnelle civile, j'ai sauté le pas. Je suis allée sur êtremarin.fr. J'ai déposé ma candidature pour rejoindre la PMS état-major, et puis à l'issue, après quelques entretiens de motivation pour prendre la mesure des connaissances militaires, la connaissance des enjeux maritimes et de ses motivations personnelles, j'ai rejoint la promotion Orion. Et à l'issue de cette année de préparation militaire, j'ai été contactée pour rejoindre le CPCO.
Voilà. Mélina, ce qu'on peut également dire, donc là on parle de préparation militaire supérieure, état-major, c'est parce que votre niveau d'études vous amenait à pouvoir postuler à ce genre de préparation militaire, c'est ça ?
Alors oui, effectivement, il existe plusieurs préparations militaires au sein de la Marine nationale, et je crois que le premier maître Adrien est très compétent dans ce domaine.
Donc, belle passe décisive.
Je me permets. Donc, moi, c'est la voie que j'ai choisie, parce que c'est ce qui était cohérent avec mon parcours et mes aspirations, mais il y a d'autres voies qui existent. Et...
Alors, Adrien, c'est ça, il y a plusieurs types de préparation militaire dans la marine ?
Tout à fait. Alors, il existe trois types, et un quatrième dont je vais vous parler. Il y a trois types de préparations militaires. Les plus nombreuses, les préparations militaires marines réparties sur le territoire. On en a environ 80 répartis sur le territoire qui forment des jeunes gens qui ont entre 17 ans et 20 ans, sans condition de diplôme, et qui viennent découvrir. Ce n'est pas pour l'instant engageant. On est libre d'adhérer ou pas, et de devenir réserviste ou pas, ou militaire d'actif. Ensuite, vous avez
des... Ce type de préparation militaire, je vais appeler ça une préparation militaire découverte, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Vous êtes en général, ce sont des lycéens qui ont 17 ans, qui viennent découvrir à raison de un week-end par mois pendant l'année scolaire, entre septembre et juin, un week-end par mois, et une semaine sur une base navale pendant une période bloquée, et qui viennent découvrir la réalité de vie des équipages de la Marine nationale qui finalement ne sont pas beaucoup plus âgés qu'eux. Donc, ils viennent découvrir réellement comment ça fonctionne.
Commandant, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, c'est les... vit ça de l'intérieur, et puis c'est vraiment le moment où on peut prendre la température avant de se jeter dans le grand bain, hein, très clairement. Et donc c'est une bonne étape qui s'adresse à des jeunes, et je voulais juste rajouter simplement que c'était aussi une étape qui était souvent parcourue par des jeunes qui voulaient s'engager aussi dans l'active de la marine, voilà, donc c'est pas seulement la réserve. Et donc c'est cette première expérience au contact des marins, au contact des codes de la marine, au contact des premiers métiers de marin, on apprend à faire des choses comme aller sur l'eau. Eh bien, c'est à la fois c'est une belle expérience, et puis c'est probablement ce qui bâtit souvent la vocation pour s'engager dans la marine, de réserve ou d'active.
Donc ça, c'est les préparations militaires normales, et ensuite il y a trois autres types de préparations militaires.
Ensuite, pour les officiers mariniers, donc qui sont les sous-officiers dans la marine nationale, vous avez deux promotions de préparation militaire supérieure mestrance. Donc la mestrance, ce sont les officiers mariniers. Qui sont formés au centre d'instruction navale de Brest et au pôle école méditerranée de Saint-Mandrier à raison de 3 semaines bloquées, ces 3 semaines d'un coup, là pour le coup, et ce sont 3 semaines pendant la période estivale, en général à la fin du mois de juin jusqu'à la fin du mois de juillet, où vous avez tous les prérequis pour devenir officier marinier. Et donc là, à l'issue de cette formation, vous êtes déjà réserviste. Et la dernière formation est celle qu'a fait la capitaine, qui est la préparation militaire supérieure état-major, qui forme les officiers, qui est accessible à partir de Bac+3, qui forme également des réservistes, c'est-à-dire qu'à l'issue de la formation, si les stagiaires sont brevetés, ils sont réservistes et ils sont aptes à servir immédiatement en unité opérationnelle dans les centres de préparation militaire et vraisemblablement à tout poste ouvert dans la réserve de la marine. Il existe un dernier dispositif qui est résiduel, qui est consacré à un profil type, qui sont la préparation militaire supérieure marine marchande, qui s'adresse aux gens qui effectuent les écoles de la marine marchande et qui peuvent intégrer directement une préparation militaire supérieure qui leur est dédiée à Toulon, à raison d'une fois par an.
Très bien, très clair, bien. Commandant.
Moi, je voulais juste rajouter quelques chiffres. Les préparations militaires font un tabac, en fait, chaque année. On accueille pas loin de 3500 jeunes stagiaires dans les préparations militaires. En fait, la formule qui plaît beaucoup, c'est d'abord de sortir des sentiers battus, d'aller voir ailleurs, et puis surtout de faire ça sur toute l'année, de manière perlée un peu, et régulièrement, une fois par mois, sur des week-ends, et puis il y a une semaine bloquée qui donne plus de sel, plus de saveur quasiment à l'engagement. 3500 chaque année.
Très bien. Donc les préparations militaires, merci pour cette explication. On voit bien quel est le parcours. Et sinon, concrètement, pour s'engager en tant que réserviste dans la marine, commandant, on passe par quelle interface ? Alors, Milian nous parlait de êtremarin.fr, qui est le site de recrutement de la marine, mais d'une façon générale, pas que pour être réserviste. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Oui, c'est encore le cas. Alors, c'est plus simple pour ceux qui ont fait une préparation militaire. C'est pour ça qu'on en parlait. En fait, on est dans une forme de continuité. On passe sinon par le site êtremarin.fr. Une fois de plus, j'ai le sentiment de parler au passé en parlant du présent. Tout ça va changer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, puisqu'on va créer des unités de réservistes dans la marine, une quinzaine d'unités de réservistes qui vont être commandées par des réservistes, qui vont être structurées par des réservistes, qui vont offrir des parcours de carrière aux réservistes, puisqu'elles vont offrir aussi des métiers beaucoup plus spécialisés aux réservistes au sein de la marine, eh bien, elles vont s'articuler directement avec les préparations militaires. Donc la voie, j'ai envie de dire, préférentielle, la voie royale de demain pour entrer dans la réserve, c'est souvent faire une préparation militaire, faire partie des 3500 jeunes qui s'engagent dans cette expérience qui dure un an, et après de prolonger la passion ou l'embarquement en s'engageant dans la réserve. Et donc, ça permettra de mieux savoir, parmi les 15 métiers qu'on proposera, exactement ce qu'ils souhaitent faire.
Voilà. Parfait. Adrien, alors, c'est vrai que vous nous avez répondu hein, sur les différents types de préparation militaire, mais, alors, mais vous, comment s'est passé votre engagement en tant que réserviste ?
Alors, il se trouve que j'ai découvert la marine au lycée. Un amiral est venu faire une présentation des métiers de la marine lorsque j'étais lycéen. Hein. Finalement, je suis rentré en fac de droit, et puis lors de ma première année de droit, j'avais envie de servir, et j'avais envie de servir d'abord en rentrant dans la police nationale. Je faisais des études de droit qui m'amenaient vers cette direction-là, et puis je me suis dit que je voulais servir, mais avant de finir mes études. Et donc la réserve était un bon moyen d'aller vers ce but, d'autant que les formations étaient pendant la période de vacances scolaires hors des partiels. Et donc, je suis devenu réserviste à 21 ans en me présentant dans un centre d'information et de recrutement des forces armées, qui était là en l'ancienne version, mais qui aujourd'hui est beaucoup décliné sur Internet, sur êtremarin.fr. Et j'ai effectué 3 semaines de formation auprès d'une préparation militaire supérieure Metz France à Brest, à l'issue de laquelle je suis sorti second maître, qui est l'équivalent d'un sergent dans les autres armées. Et j'ai commencé là ma carrière de réserviste. Je parle de carrière parce que ça a été mon premier emploi. Donc, et mon premier employeur, et ça l'est toujours.
Ah oui, donc parce que effectivement, on comprend bien que vous avez commencé en tant que en étant étudiant.
Tout à fait.
Et j'ai peut-être la transition. C'est donc une fois que vous avez fini vos études, comment s'est passé la transition donc vers la vie active et la conciliation avec l'engagement en tant que réserviste?
Alors, il a fallu expliquer à mon employeur que j'étais réserviste, ce qui n'était pas forcément une habitude. Il n'en avait pas forcément rencontré jusque-là. C'était parfaitement compatible avec mon activité professionnelle. Je pouvais prendre des congés lorsque j'avais besoin. Et l'activité que j'avais choisie finalement était compatible avec mon emploi. C'est aussi la force de la diversité des métiers proposés, c'est qu'on peut faire des missions qui sont échelonnées pendant l'année et on peut aussi faire des périodes ramassées sur des périodes estivales si on a moins de disponibilité à consacrer à la réserve.
Alors Adrien, est-ce qu'on peut parler de votre employeur ? Quel est donc cet employeur ?
Alors, lorsque j'étais au tout début, à la fin de mes études, c'était une agence immobilière, je travaillais en immobilier, je travaille toujours en immobilier. La réalité fait qu'aujourd'hui, je suis mon propre patron, donc les négociations sont un petit peu plus faciles pour partir et pour prendre des jours. Mais de manière générale, la prise en compte des qualités de réserviste sont beaucoup plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. Et on a d'éléments positifs quand on est salarié et qu'on veut prendre des jours de réserve, puisque la réserve est désormais connue.
Alors, Mélina, est-ce que aussi vous confirmez le fait que, je vais pas dire que c'est plus facile aujourd'hui, mais disons que l'exposition, la visibilité des réservistes, de cet engagement au service de la nation, il est davantage reconnu, accepté et facilité par les employeurs et notamment par le vôtre?
Oui, je pense qu'effectivement, il y a une évolution très positive dans ce domaine. J'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs entreprises dans l'aéronautique française. Et je constate qu'il y a quand même une sensibilité sur ces questions-là. Là, l'entreprise dans laquelle je suis a signé une convention avec la Garde nationale qui permet de mettre à disposition les réservistes 20 jours par an. Donc c'est 20 jours, en fait, ce sont pas des congés, ce sont des jours où votre employeur vous prête en quelque sorte à l'armée pour pouvoir réaliser votre mission. Alors oui, enfin la dynamique est positive. Je dirais juste quand même que c'est une facilité, mais ça demande quand même aussi de la communication auprès de son manager. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas là, c'est quelqu'un d'autre qui va devoir probablement prendre les actions que vous deviez faire. Donc ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup d'anticipation, et puis également aussi une solidarité en fait au sein de l'équipe, de la vie civile, mais également aussi dans la vie militaire, c'est-à-dire arriver à être disponible, à être réactif, à être au niveau également, parce que ça peut être aussi dans des environnements qui sont assez exigeants. Donc il y a des atouts, enfin le fait d'être réserviste permet de développer certaines compétences, mais vous êtes aussi un vecteur de communication aussi entre deux milieux qui ont des façons de fonctionner différentes et des besoins différents.
Adrien, alors Vous avez dit que dans votre cas, vous étiez votre propre patron, mais avant d'être votre propre patron, vous avez connu effectivement cette relation aussi avec votre employeur. Est-ce que vous retrouvez dans ce que dit Mélina ?
Alors, j'étais dans une société qui n'avait pas de lien particulier avec le monde des armées et une méconnaissance totale de cet univers-là. Et effectivement, il a fallu compter sur le soutien de collègues qui étaient sensibles à ces sujets-là pour pouvoir me permettre effectivement, comme le disait la capitaine, de pouvoir m'absenter, de pouvoir me remplacer, parce que ça n'était pas toujours possible. Et il est vrai que l'employeur finalement avait un personnel en moins sur une journée de travail. Je venais renforcer la marine nationale, mais l'employeur perdait un élément. Ça n'a pas été problématique, et je l'avais annoncé à mon employeur dès mon entretien d'embauche. Donc le contrat était établi en amont.
Et justement, Adrien, comment il a pris ? Donc, parce que vous lui avez annoncé en fait au moment où vous candidatiez, donc rien n'était contractualisé entre vous. Et le fait de lui dire je suis réserviste, j'ai un engagement important dans la marine nationale et je souhaite le continuer, quelle a été sa réaction ?
Alors, d'abord préoccupé, il a fallu donner des gages, des solutions pour lui assurer que le travail serait fait. Et parfois, il fallait... les jours de congé dans l'immobilier ne sont pas toujours le samedi et le dimanche, mais parfois le lundi. Et donc, il a fallu trouver des ajustements pour que je puisse prendre mes congés sur des... ou ne pas prendre mes congés, justement, pour pouvoir assumer mes fonctions militaires et mes fonctions civiles. Donc, tant que le contrat était établi en amont, ça n'a pas été problématique. Je pense que certaines professions peuvent être, par contre, moins compatibles. C'est indéniable.
Non, c'est intéressant dans le témoignage. Il y a un côté quand même très transactionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on rejoint la réserve, il y a différents modes d'engagement, il y a différents endroits où on peut servir. Nous, on propose des contrats très différents. Si demain, un réserviste rejoint ce qu'on va monter, qui sont des unités de réserviste sur littoral, probablement que le mode d'entraînement des équipes de réservistes sera un peu calqué sur les modèles américains, c'est-à-dire un entraînement tous les week-ends, un week-end sur deux, ou un week-end sur trois, ou un week-end par mois, il faut qu'on cale ça précisément. Et donc ça s'adresse à un public qui est peut-être un peu moins disponible pour la réserve en semaine,
oui,
et qui peut faire ça le week-end. Il y a des modèles de réserve, Emilina connaît ça, où on peut faire une semaine complète, ça s'organise à l'avance, le réserviste s'organise avec son entreprise, ou avec son employeur, et puis nous on s'organise aussi, et donc le truc est calé suffisamment tôt pour que ça puisse fonctionner. Et puis on a des réservistes qui existent souvent dans les fonctions d'experts, où on est sur un autre mode d'interaction. Je pense aux réservistes qui travaillent dans le domaine du numérique, les juristes, on a même des journalistes qui ne travaillent pas avec nous. Eh bien, généralement, lorsqu'on a un besoin précis, on les appelle, on regarde leur disponibilité, on regarde à quel moment on peut s'organiser pour les accueillir, et puis ça fonctionne comme ça.
C'est pas rigide. En fait, le message qu'on peut faire passer, c'est que cet engagement n'est pas rigide. S'il a été peut-être par le passé, l'objectif, c'est vraiment de le fluidifier, de coller au maximum, bien sûr, aux besoins des armées, et donc là, de la marine nationale et des unités dans lesquelles on sert, mais également aux impératifs professionnels et personnels des réservistes.
Non, c'est pas rigide, et c'est pas rigide parce que dans le mode de fonctionnement des employeurs et des réservistes, on communique énormément, et donc ça permet de s'entendre, en tout cas, sur les modalités de la réserve. Et puis c'est pas rigide non plus, parce qu'il y a plusieurs modes, comme j'ai dit, d'engagement. Un patron d'embarcation qui est dans une unité, lui, il va connaître son planning longtemps à l'avance, alors que ceux qui travaillent en état-major notamment et qui ont besoin de faire des astreintes, je sais que Milena a suivi une opération il n'y a pas longtemps dont on ne parlera pas, qui nécessitait d'être présent sur plusieurs jours, c'est une forme d'engagement. Voilà. Donc, c'est aussi le type de mission qui est confié, ou le poste, qui fait la modalité quasiment de la réserve. Voilà, deux jours par mois, ou bien une semaine complète de temps à autre, ou alors un peu comme des journalistes à la pige, lorsqu'on s'est entendu sur un rappel.
C'est très clair. Mélina, alors, on va peut-être parler un peu de vos missions, alors celles dont on peut parler. En tant que réserviste, qu'est-ce que vous êtes amené à faire ?
Donc en termes de missions, il y a plusieurs... ça peut être du suivi de situation, de l'analyse de fonds, de la gestion de crise.
Peut-être celle de... peut-être les deux années écoulées, celle qui vous a le plus plu. dont on peut peut-être parler.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, j'aime beaucoup ce que je fais. Ça se passe dans un sous-sol, d'accord. On voit pas beaucoup la lumière du jour. On travaille beaucoup, mais l'ambiance est très stimulante. Je travaille auprès de personnes qui sont extrêmement ouvertes d'esprit, qui ont toujours un souci d'être exigeants avec eux-mêmes, exigeants dans les propositions qu'ils formulent, et dans un cadre lui-même exigeant. Donc tout cet environnement, en fait, vous tire vers le haut. Et même si vous ne voyez pas beaucoup la lumière du soleil, bah, vous avez les yeux rivés sur la carte, et donc vous faites au moins le tour du monde 3 ou 4 fois par jour. Donc franchement, c'est...
Oui, alors c'est pas qu'on ne peut pas vous dire, Emilia ne peut pas vous dire ce qu'elle fait, mais en fait, voilà, elle est quand même sur des missions et des opérations... qui nécessite un haut niveau de confidentialité. Mais bon, on a compris que, en tout cas, en tant que réserviste, vous étiez épanoui.
Voilà, c'est ce qu'il faut retenir.
C'est ce qu'il faut retenir. Et ce qu'on peut dire, par la transition avec Adrien, c'est que tous les réservistes ne sont pas dans des sous-sols sans lumière. Certains, comme le commandant nous a dit, sont même embarqués. Et Adrien, la question, c'est est-ce qu'il faut habiter Brest ou Toulon pour être réserviste opérationnel dans la marine ?
Alors non, je l'habite en région parisienne et je dois dire que je n'embarque pas beaucoup. Mais non, le maillage des préparations militaires marines dans lesquelles je sers, j'en suis à ma deuxième préparation militaire marine, et justement dans des zones qui sont considérées parfois comme des déserts militaires, où il n'y a pas la mer, et qui fournit pour autant de très bons candidats pour la marine d'active. En termes de missions réalisées par les instructeurs des préparations militaires, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que les instructeurs de toutes les préparations militaires, qu'elles soient marines ou supérieures, sont des réservistes. Donc chacun apporte sa compétence, et il se trouve que une manière de monter en compétence dans la marine nationale, c'est au contact de nos anciens d'actives. Et donc, lorsqu'on rejoint une unité de la marine nationale, on vient avec ses compétences du civil, on vient avec les compétences acquises lors des phases d'instruction, mais surtout, on est enrichi par nos anciens, nos officiers mariniers supérieurs, qui, parfois, après des carrières longues de 10, 15, 20 ans, des sous-mariniers, des surfaciers, finalement, vont nous apprendre la réalité de la marine et vont un petit peu nous amariner. C'est-à-dire que nous avons des souvenirs qui sont les leurs et qui se transforment en des souvenirs que nous avons nous-mêmes acquis. C'est un partage d'expérience et c'est une chose qui est extrêmement précieuse dans la marine, tant pour le personnel de réserve que le personnel d'actif.
Donc, pas forcément besoin d'être à côté d'un port, en tout cas à côté des côtes, pour être réserviste opérationnel dans la marine. Y a quand même des missions emblématiques en tant que réserviste opérationnel dans la marine. Je pense notamment au sémaphore. Commandant, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est justement un sémaphore ?
Alors là, on est dans la réserve territoriale. Alors, c'est intéressant parce que dans les objectifs de croissance de la réserve dans les prochaines années, la marine a l'intention de sortir de ses ports principaux. La marine a 4 ports sur le littoral. On est à Brest, on est à Toulon, on est à Cherbourg, on est à Lorient. Et puis, on a quand même une chaîne de surveillance du littoral. Et quand on nous parle de la question du territoire, qu'on demande c'est quoi le territoire de la marine, eh bien, on dit le territoire de la marine, c'est le littoral. Voilà. Et les sémaphores font ça. Leur mission, c'est, avec des systèmes d'observation, tourner vers le large, de surveiller ce qu'on appelle les approches, donc la partie de mer qui se trouve de la côte, de la ligne de côte, jusqu'à 12 nautiques, 24 nautiques et plus que ça, avec des radars qui voient assez loin. Et donc, c'est vraiment de la surveillance du territoire.
Donc c'est une mission vraiment marine nationale. Alors, on peut le dire par rapport aux autres armées, sémaphores, on ne trouve ça que dans la marine nationale.
Les sémaphores sont dans la marine nationale. Et puis, la mission de surveillance des approches, ou ce qu'on appelle l'action de l'état en mer, en fait, est une mission inter-administration. On fait ça avec d'autres administrations. Alors, dans les sémaphores, il y a des marins d'actifs. Et puis, il y a des marins de réserve. Voilà. Et c'est probablement un axe qu'on va travailler un peu plus dans le doublement de la réserve. Vous savez, on va développer des unités qu'on va appeler des flottilles côtières qui vont être déployées sur le littoral. Et donc, elles vont travailler vraiment de conserve avec les sémaphores. On va prendre nos marins qui seront sur des zodiacs, enfin sur des semi-rigides, comme on dit, à travailler sous le contrôle, sous le commandement du sémaphore qui lui observe à la large. Voilà. Donc on va, avec le marin de réserve, jusqu'à quand même une intégration. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il travaille au contact des marins d'actifs, et le prêtre Adrien en a parlé. Eh bien, même sur des opérations de cette nature-là, On peut faire confiance à des marins de réserve qui sont directement en lien opérationnel avec
le marine. Et en soutien des forces de marine, enfin des marins d'actifs, vous l'avez dit. Est-ce que tous ces postes sont accessibles à des réservistes? Est-ce qu'il y a des secteurs où on se dit bah non, ça en fait c'est pas pour les réservistes?
Alors, il y a des métiers dans la marine qui demandent beaucoup d'expérience de marin.
Bien sûr.
Voilà. Je vais donner un exemple très simple. Hein. Pilote de rafale sur le porte-avions, ça demande une formation et l'expérience. Ou sous-marinier, ça demande de pas mal de compétences aussi, de formation qui dure sur plusieurs années. Donc, on n'ouvre pas tous les postes à la réserve. C'est une évidence. Notamment, les postes qui sont les plus douturiers, hein, ceux qui mettent les marins en contact. La technologie la plus récente dans le domaine militaire ou qui nécessite de l'expérience opérationnelle pour opérer et construire des tactiques. L'incorporation des gens qui viennent du civil dans la marine, selon un principe qui est assez simple, les gens qui vont venir vont pour certains d'entre eux être formés comme des marins et pour certains d'entre eux être recrutés pour ce qu'ils ont comme compétences civiles. Et donc, je vous dis ça parce que quelqu'un qui est dans un métier de restauration peut très bien partir sur un bateau de la marine nationale en mission.
Parce que dans le civil, il a donc ses compétences dans la restauration, et de se dire bah, ça nous intéresse pour la marine, et hop.
Oui, ça nous intéresse, et puis c'est un rythme aussi qui peut très bien coller quasiment quelqu'un qui a un peu de disponibilité en intersaison, et puis ça donne des expériences, à mon avis, enrichissantes pour cette personne-là, entre ce qu'elle va faire chez nous et ce qu'elle va faire dans le monde civil. Et puis on a des gens qu'on va former, j'en ai déjà parlé, dans des métiers qui sont assez élémentaires au départ. Et puis, ce qui va changer probablement dans le modèle qu'on est en train de construire, c'est qu'on va créer des parcours dans la réserve. Dans le modèle d'avant, souvent, on restait un peu dans le même métier. Adrien, même si on pouvait monter en responsabilité d'encadrement, on ne faisait pas 2-3 formations professionnelles. Bon, dans le modèle qu'on souhaite monter, alors je vous parle de quelque chose qui sera en vigueur dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, on va permettre à nos marins de réserve de renforcer leurs compétences militaires et de prendre de plus en plus de responsabilités. Et c'est pour ça, notamment, qu'on crée des unités commandées par des réservistes.
Très bien. Mélina, alors, est-ce que on peut au moins dire si ce que vous faites dans la réserve a un lien avec ce que vous faites dans le civil, ou est-ce que vous avez pris un nouveau métier en tant que réserviste de la marine?
Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est arrivé à faire en sorte que les deux milieux se comprennent. Et il y a forcément quelque chose que vous faites dans la sphère militaire qui sera utile pour la sphère privée ou professionnelle. Et inversement, ce que vous apportez, votre vision en fait civile, va venir aussi enrichir l'institution militaire.
Oh bon, ça c'est une réponse qui nous va bien.
Ce serait la réponse, oui.
et Adrien, par contre, on a bien compris que on a votre activité professionnelle dans l'immobilier et puis votre activité dans la réserve qui a pas beaucoup de liens.
Aucun.
Et finalement, c'est pas plus mal.
Eh bien, c'est pas plus mal parce que ça permet d'avoir une deuxième carrière, d'avoir d'autres centres d'intérêt et d'avoir d'autres zones de progression. C'est-à-dire que quand j'ai rejoint la réserve, j'avais 21 ans et j'avais envie de me former. Et donc, comme vient de le dire le commandant, je me suis formé en interne dans une unité. J'étais adjoint d'escouade, chef d'escouade. J'ai eu la possibilité d'aller passer des stages de formation, donc stages de directeur de tir, des stages de pédagogie. Et aujourd'hui, je suis capitaine d'armes. Le capitaine d'armes dans une unité de la marine, c'est celui qui est en charge de la discipline, de l'armement notamment. Et en fait, on monte en compétences et on a une carrière, une deuxième carrière. À côté de la carrière civile. Donc oui, on n'est pas forcément obligé de faire, de prendre des fonctions qui ont un lien absolument direct avec l'activité qu'on a dans le civil. Moi, je dois dire que quand je m'évade de mon emploi civil pour aller faire de la réserve, c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire que je c'est une grande bouffée d'air.
Bon, en tout cas, merci pour vos témoignages. On va conclure peut-être pour les derniers conseils, les ultimes conseils que vous pourriez donner à des futurs candidats, hein, pour devenir, pour s'engager, hein, c'est pas devenir réserviste, c'est vraiment s'engager en tant que réserviste dans la marine nationale. Peut-être Adrien pour balayer de gauche à droite.
J'aurais tendance à dire qu'il faut pas hésiter à s'engager, que les préparations militaires marines étant ouvertes à partir de 17 ans, de 16 ans même, les candidatures sont ouvertes très tôt, que venir vérifier si l'univers Marine Nationale peut vous convenir, C'est en passant par les préparations militaires que vous pourrez le déterminer, que c'est une belle manière de servir, et que vous viviez à Strasbourg ou au fin fond de la Creuse, finalement vous avez votre place dans la Marine nationale, et on vous formera, et l'ancien personnel d'active, les réservistes les plus anciens et tous les réservistes vous formeront et vous accueilleront. On est un grand équipage, la Marine nationale, et c'est extrêmement épanouissant.
Merci, c'est engageant. Mélina ?
Oh, je plus sois ce que dit le premier autre Adrien déjà, et effectivement, enfin, écoutez-vous, et si vous êtes motivé, si vous avez l'aspiration de travailler pour de vous engager pour quelque chose qui est plus grand que chacun d'entre nous, pour le bien commun, ben écoutez-vous et mûrissez ce projet et allez-y. Et vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aiguiller, vous conseiller et vous former.
Merci Mélina. Commandant, on peut peut-être rappeler comment on fait, hein, comment on s'engage en tant que réserviste.
Bah, comment on fait ? D'abord, c'est une démarche personnelle. Avant les aspects techniques, on s'engage parce qu'on veut donner du sens. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ce qu'ont dit Adrien et Mélina. En fait, tout était dans ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas si vous avez relevé les mots clés. Il y avait s'engager, donner du sens et équipage. Donc la première démarche, en fait, elle est personnelle. Et après, la deuxième, eh bien, c'est ma responsabilité, moi, de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'on puisse ouvrir les portes de la marine. Alors, d'ailleurs, j'ai coutume de dire, et c'est marrant parce qu'on fait parfois l'erreur, on dit des réservistes. Moi, pour moi, ce n'est pas des réservistes, c'est des marins de réserve qui sont en contact des marins d'active, mais ce sont bien des marins. Donc, la démarche, elle est là, c'est rejoindre l'équipage marine.
Et peut-être un dernier conseil, hein,
Un dernier conseil à quelqu'un qui s'interroge après le webinaire ?
Oui, par exemple.
Eh bien, de se connecter.
Parfait. Encore un grand merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à ce direct Garde Nationale spécial réserviste de la Marine nationale. On aurait adoré être en vrai direct avec vous, mais donc nous avons eu des problèmes techniques. Donc on espère quand même que cette émission vous a plu, vous a apporté plein de réponses aux questions que vous posiez. Et puis on aura aussi plaisir à retrouver la Marine nationale à l'occasion de nouveaux directs. Hein. C'est pas parce qu'on en a fait un qu'on n'en fait pas d'autres. À bientôt.
Alors, je suis responsable de séjour enfant dans une agence de voyage. J'ai un employeur qui est assez conciliant avec mon engagement dans la réserve. Et du coup, on s'arrange entre nous pour être libérés pour les stages. Je dirais pas que c'est compliqué de concilier vie professionnelle et mon engagement dans la réserve. Ça demande de l'organisation et après, c'est un choix de vie. En tant que capitaine, mon rôle, c'est surtout d'accompagner les filles, de les guider de par l'expérience que j'ai aussi dans le civil en tant que joueuse de haut niveau. Et voilà, c'est de fédérer le groupe et qu'ensemble on aille gagner les matchs.
Par an, on a 25 jours de réserve. Être réserviste et ostéopathe, c'est assez simple vu que je suis indépendante, donc je gère mon emploi du temps. Donc il suffit juste que je m'organise avec mon autre collègue ostéopathe au sein du cabinet pour me libérer pour tous les stages du RCMN. Alors j'ai aussi beaucoup de sportifs de haut niveau au cabinet, donc oui, c'est des notions que j'ai déjà et que j'applique déjà au cabinet. Et que j'adore appliquer à l'extérieur du cabinet en bord de terrain. Donc j'ai intégré le RCMN en tant que réserviste grâce à mon binôme d'école d'ostéopathie qui était du coup lui-même l'ostéopathe du RCMN masculin.
Je suis réserviste depuis 2 ans. J'ai un contrat de 90 jours avec le GSBDD Toulon et j'ai aussi une mise pour emploi avec le Rugby Club Marine National de 25 jours en tant que logisticien de l'équipe féminine. Je concilie cette vie plus facilement que d'autres personnes puisque je suis à la retraite. Je suis disponible à 100% pour le RCMN, donc je suis là à tous les stages.
Bien évidemment, je pense que c'est une expérience que je recommanderais à plein de personnes de participer en tant que réserviste au sein de la marine. C'est vraiment une belle expérience.
On essaie de former cette belle équipe et de vivre de belles aventures et de représenter la marine et la France.